Saint-Narcisse de Beau-Rivage. La chasse-galerie pour chasser l'ennui. De nos jours, tout le monde reconnaît le dynamisme agricole de Saint-Narcisse de Beau-Rivage, dont les terres sont fertiles et les agriculteurs prospèrent. Il n'en fut pas toujours ainsi, cependant. Autour des années 1880, comme l'argent se faisait bien rare sur les terres fraîchement défrichées, les agriculteurs peinaient à joindre les deux bouts avec leur grosse famille de 10 à 16 enfants. Les hommes partirent donc faire les chantiers dans les montagnes blanches du Vermont, au sud des Appalaches. Deux contremaîtres du coin, Thomas Blainey et Pierre Kidhart, les accompagnaient. Après 1917, l'accès aux États-Unis étant limité, on opta pour l'Abitibi ou le nord de l'Ontario. Dans ces chantiers, les hommes pouvaient gagner 20 $ par mois, parfois même 50 s'ils conduisaient deux paires de chevaux. Cependant, il était également possible de travailler tout près, au camp de bûcherons d'Alfred Belland dans la seigneurie Ross. On s'y rendait par la route de Sainte-Agathe. La première année, il fallut construire un camp en bois rond que l'on isola avec de la mousse ramassée sur les terres spongieuses. C'était tout un régal pour les rongeurs, petits et grands. C'est là que se trouvait également la couquerie, cuisine, de même que la cache où l'on entreposait les vivres du camp. Dans ces lieux isolés, comme les camps de bûcherons aussi bien que les villages semés au bord du fleuve, la parole du conteur était souvent, avec le son du violon, le seul divertissement. La légende préférée dans les camps de bûcherons, c'était bien sûr la chasse-galerie. Elle prenait son envol en ces lieux isolés et mettait en scène l'histoire de ces vaillants travailleurs des bois. En désespoir de cause, ils faisaient un pacte avec le diable afin de retrouver leur fiancée dans leur village le soir de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31 décembre, la veille du jour de l'an. Le nom même du village le plus au sud de Lotbinière et du diocèse de Québec, un nom inspiré du dernier saint du calendrier liturgique. C'est ainsi que les bûcherons parcouraient le ciel, du camp jusqu'au village, dans un grand canot d'écorce. Mais laissons la légende parler d'elle-même. À peine avait-on prononcé les dernières paroles dictées par notre étrange guide, que le canot d'écorce s'éleva dans les airs, à une hauteur de 500 ou 600 pieds. Au commandement de Baptiste, on commença à ramer comme des possédés qu'on était. Au premier coup d'aviron, notre embarcation s'élança dans la nuit, comme une flèche. On allait tellement vite que ça nous en coupait le souffle, et le poêle en frisait sur nos castes de chats sauvages. Pendant un quart d'heure environ, on navigua au-dessus de la forêt, sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins noirs. On filait plus vite que le vent. Enfin arrivé au village, on s'amusa comme des petits fous et on dansa au son endiablé du violon. Mais comme convenu, il fallait retourner au campement avant que le jour ne se lève. Regagnant le canot, on prononça la formule magique à contre-cœur, afin de s'envoler dans le ciel et retrouver notre labeur routinier. Malgré tout, la nuit était superbe et la pleine lune illuminait le firmament comme un beau soleil de midi. Il faisait un froid du tonnerre, nos moustaches étaient couvertes de givre, bien qu'on fût tout en sueur. Comme on avait bu un peu trop de caribou et qu'on n'avait pas d'expérience de conduite de la chasse-galerie, le canot zigzaguait et tournoyait dangereusement. Arriva donc ce qui devait arriver. Le canot frappa de plein fouet une grosse épinette et tout le monde dégringola. Heureusement, la neige épaisse adoucit notre chute et, à part quelques égratignures, on s'en tira tous à bon compte. On n'était pas très loin du camp, on put donc terminer le trajet à pied. On jura tous qu'on ne nous y reprendrait plus jamais, jusqu'à la prochaine fois. On ne saura jamais si un canot d'écorce s'est réellement envolé de la seigneurie Ross, mais on peut toujours se l'imaginer. Source: Saint-Narcisse de Beau-Rivage, 1872-1972, et Légende de la chasse-galerie, publiée pour la première fois par Honoré Beaugrand.